Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à 68, mai-juin 1968, autour de l'ouvrage de notre invitée, Ludivine Bantigny, qui s'intitule 1968, de grand soir en petit matin. Et donc après une première partie consacrée un peu à la genèse historique de 68, aux grèves, à la convergence des étudiants et du mouvement ouvrier, on va parler de 68 du côté du pouvoir, donc qui est l'objet de la deuxième partie de l'ouvrage, en parlant de la question de la police, de la question du pouvoir, du gouvernement, et puis aussi de l'extrême droite, parce que c'est en général une partie de 68 qu'on connaît assez peu, à part certains épisodes un peu spectaculaires, comme la fuite de Gaulle à Baden-Baden, ou effectivement les violences policières. Mais on trouvait que c'était vraiment intéressant de partir de ça. Alors, peut-être qu'on peut commencer, même si ce n'est pas comme ça que ça se fait dans le livre, par commencer par la question du pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir va réagir aux événements, en partant peut-être du fait que, justement, ces événements, ils ne les avaient pas du tout anticipés?
Non, c'est vrai qu'ils ne les avaient pas anticipés, et pourtant, les rapports de certains préfets, tout à l'heure j'ai parlé du Calvados avec la ville de Caen, pouvaient laisser entendre que des tensions étaient réelles, et on a évoqué l'importance de cette conflictualité. Mais il n'empêche qu'il y a une vraie déstabilisation du pouvoir. Ce que j'essaie de montrer à la faveur des archives, c'est que finalement, on a beaucoup opposé une ligne de Gaulle et une ligne Pompidou. En fait, ils sont quand même assez proches dans la manière de gérer la crise. Il y a la même déstabilisation et d'ailleurs, à titre personnel, une sorte de crise existentielle. Donc c'est vrai que De Gaulle se pose vraiment sérieusement la question de savoir s'il ne devrait pas quitter le pouvoir. Et puis on a dans la correspondance de Pompidou le témoignage de cette sorte de traversée, de crise que lui-même vit comme ça, mais d'un point de vue très existentiel, quasiment philosophique. Il parle vraiment de la vanité en fait, du pouvoir. On se dit qu'en tout cas, c'est une crise qui dépasse très largement les compétences gouvernementales. Donc bon, ça c'est un point commun entre les deux têtes de l'exécutif, le chef de l'État et le Premier ministre. Mais par ailleurs, ils sont aussi sur la même longueur d'onde qui consiste à gérer la crise, enfin ce qu'ils considèrent comme gestion de la crise, par la carotte et le bâton. Bon, ce sont des armes classique, évidemment. D'abord par la tentative de division entre le monde du travail et le monde étudiant. Et d'ailleurs, dans les archives de l'Élysée, on voit de manière assez claire et assez cynique aussi certains conseillers de Gaulle qui disent « Bon, bah, en fait, on peut éventuellement gérer une crise étudiante, on peut gérer une grève ouvrière, mais la convergence des deux, enfin, ils ne parlent pas de convergence, mais ils disent, voilà, l'alliage des deux comme ça, c'est là que le bât blesse et qu'on est complètement en panique, en fait. Et c'est le cas. Donc, tenter à toute force comme le fait Pompidou, de dire que les étudiants, voilà, qui se mobilisent, ne sont pas sérieux, ne sont pas raisonnables, que bon, là où le monde ouvrier, c'est le monde du labeur, c'est le monde justement du sérieux. Donc, il va y avoir vraiment cette tentative de division, même si voilà, Pompidou décide d'ouvrir à nouveau la Sorbonne, mais c'est pas, enfin, contrairement à ce qu'on a dit souvent, c'est pas une décision qu'il a prise à titre personnel. Voilà, De Gaulle l'approuve évidemment, mais De Gaulle ne veut pas aller au charbon, c'est pas à lui de s'abaisser, pense-t-il.
À faire des concessions.
Non, pas seulement à faire des concessions, mais en tout cas à les proclamer, donc à les annoncer. Donc voilà, il y a une sorte de partage des tâches. C'est à Pompidou d'aller déclarer que la réouverture de la Sorbonne est décidée. Mais là, il y a une même longueur d'onde entre les deux hommes. Et puis, la carotte, hein, c'est-à-dire que tous deux sont aussi d'accord sur l'idée de négocier. Donc Grenelle, même si c'est Pompidou qui préside aux discussions de Grenelle, avec voilà, essayer de retrouver une maîtrise des événements par la négociation avec les syndicats. C'est une décision qui leur est commune. D'ailleurs, là aussi, les archives de l'Élysée montrent qu'il y a un moment eu une hésitation, que certains voulaient que ce soit De Gaulle lui-même qui préside cette réunion à Grenelle, qui ne s'appelait pas encore forcément la réunion de Grenelle, mais on se demandait si ça ne pouvait pas être soit Matignon pour rappeler le Front populaire, soit carrément à l'Élysée. Bon. Et donc, finalement, c'est Pompidou qui officie, mais De Gaulle est tout à fait sur cette ligne aussi. Et en fait, la ligne de l'exécutif, c'est de dire, bon, faut lâcher un peu sur les salaires. Donc, faut lâcher sur les salaires, donc ça veut dire 35% d'augmentation du SMIG, et puis l'augmentation des salaires et de 7 à 10% et la reconnaissance des sections syndicales d'entreprise. Il y a énormément de sujets qui ne sont pas du tout discutés à Grenelle, comme la réduction du temps de travail, comme la question de la sécurité sociale, comme l'âge de la retraite, bon, des tas de choses comme ça. Mais là, il y a une sorte d'accord entre la direction de la CGT, le pouvoir et le patronat pour dire on va circonscrire en fait l'étendue même des concessions du côté du pouvoir et des revendications du côté syndical. Et puis il y a le bâton, en fait, le bâton, c'est la répression. Donc là aussi, il y a vraiment, faut quand même se rappeler qu'on est, on parlera à propos de la police, mais que voilà, la guerre d'Algérie n'est pas loin. Il y a voilà, c'est quand même De Gaulle lui-même qui avait validé des répressions extrêmement féroces, aussi bien le 17 octobre 1961, manifestation des Algériennes et des Algériens à Paris, que de voilà, ce qu'on a appelé Charonne le 8 février 1962. Donc voilà, on sait que le pouvoir peut être impitoyable en matière de répression, et d'ailleurs il l'est, parce qu'il y a une vraie violence en 1968. Voilà. Et en fait, cette répression, elle se marque aussi par l'idée que, à partir de Grenelle, comme voilà, il y a eu quand même, sinon un accord ratifié comme tel, mais un protocole qui a satisfait globalement les partis avec un E, hein, c'est-à-dire les trois partis, les syndicats de salariés, le patronat et l'État, eh bien désormais, on peut faire cesser cette grève et dès lors réprimer toutes celles et tous ceux qui la poursuivraient. Et donc, c'est vraiment la décision d'envoyer les forces de l'ordre dans les usines encore occupées, dans les lycées, dans les universités, et ça se fait vraiment dans une très grande violence. On a parlé tout à l'heure de ce qui s'était passé à Flins. On pourrait aussi évoquer ce qui se passe d'ailleurs le lendemain de la mort de Gilles Totin, le 11 juin, la mort de deux ouvriers à Peugeot-Sochaux, Henri Bello et Pierre Blanchet. Lors de l'intervention des CRS, l'un se prend une balle dans la tête et l'autre meurt des suites du tir d'une grenade offensive. Donc vraiment une répression féroce, implacable, qui s'accompagne aussi de décisions politiques qu'on peut considérer comme antidémocratiques, en particulier la dissolution de 11 organisations, on peut dire révolutionnaires, en tout cas qui s'intitulent comme telles, hein, qu'il s'agisse d'anarchistes, du mouvement du 22 mars, de trotskistes ou de maoïstes. Donc dissolution. Et ce qui est frappant, c'est que, hormis une protestation du PSU, hein, le Parti Socialiste Unifié, dirigé par Michel Rocard à cette époque, les forces de gauche, les partis de gauche, et en particulier le Parti communiste français, ne protestent pas contre cette dissolution, qui est quand même une décision grave du point de vue du pouvoir. Et dans le même temps, ce même pouvoir décide aussi, par décret, de l'amnistie des anciens de l'OAS. Donc ça, c'est quand même frappant. C'est que bon, bah, De Gaulle a besoin, en fait, de soutien. Donc il a besoin du soutien de l'armée, d'où Baden-Baden et sa rencontre avec Massu, d'où le fait aussi qu'il laisse vraiment entendre que ce recours à l'armée pourrait tout à fait être envisagé, qu'il y a des mouvements de troupes dans le pays, bon, notamment fin mai, début juin. Mais il a aussi besoin de toutes les droites, quoi, et y compris de celles qui lui en veulent toujours, hein, pour avoir cédé l'indépendance de l'Algérie. Même si, bon, c'est évidemment pas De Gaulle qui l'a concédé, mais c'est d'abord et avant tout le mouvement d'indépendance algérienne lui-même. Donc, en fait, amnistie des anciens de l'OAS, organisation de l'armée secrète, les mêmes en gros, hein, qui voulaient lui tirer deux balles dans la tête quelques années auparavant. On se rappelle l'attentat du petit Clamart en 63. Donc ça veut dire concrètement que ces gens de l'OAS, eh bien, soit sortent de prison, soit rentrent d'exil. Donc voilà, il y a deux décisions qui sont prises de manière concomitante, qui disent très bien la politique du pouvoir. Et puis l'autre chose, et vous avez aussi tout à l'heure parlé à juste titre de l'importance des travailleurs étrangers en 68, de l'importance de leur mobilisation. L'autre décision du pouvoir, c'est l'extrême sévérité à leur égard, notamment la politique d'expulsion. Il y a plusieurs centaines d'étrangers qui vont être expulsés de France, notamment des travailleurs venus du Maghreb, surtout des Algériens, et puis aussi, par exemple, des Espagnols qui sont reconduits à la frontière dans une Espagne qui est évidemment encore franquiste. Donc c'est au péril de leur liberté, voire de leur vie. Donc voilà, c'est une politique politique. Et après un moment de panique, après un moment vraiment de flottement et de désarroi, en fait, cherche à retrouver la politique classique, donc des négociations avec ce qu'on n'appelle pas encore les partenaires sociaux, mais voilà, qui sont envisagés comme tels. Le fait de pouvoir compter sur les droites, sur l'armée, mais aussi le fait de pouvoir compter quand même sur le PCF. Enfin, c'est-à-dire de pouvoir se dire qu'à partir du moment où De Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections qui auront lieu les 23 et 30 juin, ben, il faut, encore faut-il que les forces politiques le suivent. Et c'est le cas, en fait, parce que le PCF va dire assez rapidement, ce sera le titre du journal L'Humanité, je crois que c'est le 6 juin, « Reprise victorieuse du travail dans l'unité ». Donc qui est pas seulement un constat, puisque à cette époque, il y a encore, à ce moment-là, il y a encore presque 2 millions de grévistes, mais c'est une injonction aussi. On a gagné à Grenelle, reprise. Et donc maintenant, on va préparer les élections. Il y a quand même une entente tacite de ce point de vue, en fait. C'est-à-dire le fait qu'on se comprend quand même entre gens supposément raisonnables qui veulent maintenir les institutions comme telles et la voie électorale comme panacée.
C'est intéressant ce point parce que finalement, on voit, et ça a été beaucoup critiqué pendant les événements et après, que finalement, la CGT et le PCF ont quasiment eu un rôle contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire dans le sens où le but, clairement, pour la CGT et le PCF n'est pas de transformer ce qui se passe en 68 en un moment révolutionnaire, mais plutôt de l'endiguer vers, disons, une solution réformiste, et voilà, notamment l'augmentation des salaires, et finalement qui ne va même pas aussi loin que la CFDT, qui posait des questions plus centrales sur les conditions de travail, la réduction du temps de travail, la question de l'autogestion. Finalement, la CGT reste dans le rôle qui a été le sien, et le PCF aussi, disons, depuis l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev et sa notion de coexistence pacifique finalement entre capitalisme libéral et capitalisme d'État en URSS, qui est une politique finalement de collaboration politique dure et ferme, dans le sens où malgré tout le PCF et la CGT doivent quand même représenter les intérêts de la classe ouvrière française, mais où il n'y a jamais, disons, d'horizon révolutionnaire. Et finalement, c'est ça un petit peu tout le paradoxe du discours du pouvoir gaulliste notamment, c'est de finalement toujours agiter le spectre du communisme totalitaire, alors même que finalement, parmi les forces de gauche, le PCF et la CGT sont quasiment les forces les plus modérées, les plus réformistes, qui vont le plus faire finalement un peu le jeu de la négociation et de la reprise du travail. Alors même que, par exemple, la CFDT ou le PSU, et sans même parler des trotskistes, des anarchistes, des situationnistes, eux sont en fait beaucoup plus à gauche et beaucoup plus révolutionnaires. Et vous avez parlé de la carotte, et une des autres carottes, évidemment, c'est la participation. Mmh. C'est cette idée de, finalement, bon, qui est un peu une espèce de nouvelle idée de collaboration de classe, un petit peu d'intéresser finalement le prolétariat au profit du capital, parce que de l'intéresser à son exploitation, disons, avec l'idée que ça va créer une harmonie de classe. Et effectivement, c'est là où, et vous en parlez dans votre chapitre 6, que finalement les gaullistes de gauche, en parlant de cette idée de participation, vont finalement donner des bonnes idées, finalement, même si c'est pas décisif, hein, cette idée, évidemment, pour expliquer la fin, entre guillemets, du moment de mai-juin 68. Mais ils vont finalement donner des meilleures idées au pouvoir en termes, justement, d'endiguement de la contestation que les gaullistes de droite, même si, et ça, c'est quelque chose d'important dans la deuxième partie de votre ouvrage, même si finalement, ce n'est pas tellement cette question de la participation qui va être ce qui va permettre finalement au pouvoir de reprendre la main. C'est d'une part, effectivement, le fait que la plupart des forces de gauche vont accepter, en fait, finalement, de mettre fin au moment contestataire de mai-juin 68 pour aller sagement, disons, attendre le résultat des élections de juin 68. Mais c'est aussi le fait, la mobilisation, finalement, par le camp du pouvoir, à la fois de la police, hein, et puis aussi du camp gaulliste, avec l'importance notamment des comités de défense de la République, du SAC, du service d'action civique, donc là qui est plus ancien, et finalement toutes ces alliances effectivement très troubles avec l'extrême droite pro-Algérie française. Et notamment, vous avez parlé du fait qu'il y avait eu la dissolution de toutes ces organisations d'extrême gauche et en même temps l'amnistie politique pour les anciens de l'OAS, qui avait pourtant mis à feu et à sang l'Algérie en 1962. Et en même temps, le groupuscule Occident, qui est presque la principale force d'extrême droite, hein, qui a manifesté tous les jours à partir du 13 mai 68, qui regroupe plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de militants à cette époque, à ce moment-là, et qui a un programme vraiment d'extrême droite extrêmement dur, ne sera pas dissous parce qu'on considère qu'il n'est pas tellement subversif. Du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tous ces plans qui sont vraiment intéressants et qui sont assez méconnus en fait de mai juin 68?
Oui, alors vous avez raison. Ça suppose d'ailleurs de revenir sur ce sur quoi De Gaulle peut prendre appui. Donc, en gros, on l'a dit, l'OAS, enfin, les anciens, et donc, en effet, toute cette droite dans toute sa diversité. C'est-à-dire qu'en fait, là, De Gaulle va s'appuyer tout aussi bien sur des gens qui, encore une fois, lui en voulaient beaucoup, que sur ce que vous avez nommé les gaullistes de gauche. C'est vrai qu'à l'époque, certains peuvent s'auto-désigner de cette façon, ou alors ils parlent de gaullisme social. C'est toujours un peu compliqué avec ces étiquettes, mais c'est vrai qu'eux, ce qu'ils veulent, et c'est d'ailleurs un projet que De Gaulle avait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, au début des années 40, il en avait parlé, c'est-à-dire l'intéressement, la participation, en fait l'association Capital-Travail. Donc il s'appuie sur tous ces courants, ce qui fait que dans les grandes manifestations, notamment celle du 30 mai 1968, à l'issue du discours radiodiffusé de Gaulle, où il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, bon, c'est une manifestation vraiment gigantesque sur les Champs-Élysées, hein, vers l'Arc de Triomphe, et en fait on entend à la fois des vives De Gaulle, mais on entend aussi des vives Pétain. On entend des choses absolument horrible, les cocos au poteau, le rouquin à Pékin, bon ça c'est à propos de Cohn-Bendit, comme si il était favorable au régime de la Chine maoïste, ce qui est quand même un gros contresens politique, mais on entend d'ailleurs au sujet de Cohn-Bendit, Cohn-Bendit à Dachau, enfin, c'est comme ça qu'on prononce, bon, voilà, donc il y a aussi ces relents, à la fois germanophobes, très clairement, en ce qui concerne Cohn-Bendit, et aussi antisémites, hein, c'est clairement, enfin, donc des choses vraiment, Prévert écrira un très beau texte, un poème indigné face à tout ce qu'il a entendu dans cette manifestation du 30 mai, hein, Renault au boulot notamment, enfin, vraiment il parle de cris de peur bleue chez les gens qui manifestent, mais il faut rappeler en écho à ce qu'on a dit sur jeunesse, etc., la jeunesse, est-ce qu'on peut parler de la jeunesse au singulier, bah, qu'il y a aussi quand même pas mal de jeunes gaullistes en fait, hein, qui manifestent, et puis aussi des jeunes de petits groupes d'extrême droite, donc vous avez mentionné Occident, et en effet le ministre de l'Intérieur après discussion estime que, donc ça c'est à l'époque c'est désormais Marcellin en juin, Raymond Marcellin, et que non, mais Occident ne trouble pas l'ordre public, quoi. Alors même que tous les rapports des renseignements généraux montrent l'extrême virulence d'Occident, hein. C'est d'ailleurs, ils avaient incendié un local de l'UNEF à la Sorbonne début mai, etc. Mais il peut aussi ce pouvoir s'appuyer sur, on l'a dit, le PC, mais là je voudrais revenir sur une dimension plus directement géopolitique, hein, parce que vous avez parlé de Khrouchtchev tout à l'heure, et donc De Gaulle, en fait, il avait reçu Khrouchtchev en grande pompe en 1960, et De Gaulle représente aussi pour Moscou un facteur de stabilité, en fait, à l'échelle de cette guerre froide dans sa phase de coexistence pacifique. Donc il s'agit aussi de ne pas troubler l'ordre du côté de cette France, en fait, qui convient très bien à Moscou dans son rapport de force avec les États-Unis, avec la relative indépendance de Gaulle par rapport aux États-Unis, par rapport à l'OTAN. Et donc, je crois aussi qu'il faut avoir ça en tête pour comprendre que De Gaulle, à un moment, saisi qu'il peut être rassuré de tous côtés. Il a de nouveau, et le moment décisif, c'est vraiment fin mai, début juin, il a à nouveau toutes les cartes en main. Et la preuve en est aussi que tout à l'heure, j'évoquais donc cette répression féroce qui nous amène aussi à parler de la police, enfin, c'est-à-dire à quel point enfin, les forces de l'ordre sont toutes très déstabilisées par ce qui se passe. Beaucoup disent mais on n'a jamais vu ça, puis on n'est pas assez équipé, puis en fait on n'est pas assez formé, puis on n'a pas les moyens humains et matériels de faire face à cette spontanéité, à cette habileté des manifestants. Voilà. Mais en même temps, il y a quand même aussi, même si c'est difficile de parler de la police en général, parce que ce n'est pas du tout la même chose d'être un CRS, un garde mobile, civile ou un policier municipal. Il y a aussi donc des violences policières qui sont réelles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les archives de la police et aussi les archives des renseignements généraux d'ailleurs pour voir comment elles s'organisaient. Et donc les forces de l'ordre sont à l'origine de la mort de Gilles Totin, de Pierre Bello et d'Henri Blanchet le 10 juin et le 11 juin. Par exemple, la CGT appelle pour Sochaux, donc pour Bello et Blanchet, à une heure de débrayage. Là où le travail a repris, juste une heure de débrayage. Donc, le pouvoir, il est bien conscient de ça. Le fait que, du côté notamment de certaines forces syndicales, on n'est pas prêt du tout à relancer la grève, alors même que deux ouvriers sont morts en pleine usine, puis aussi un jeune lycéen.
Oui, ça c'est vraiment intéressant que finalement, d'un côté, le Parti communiste français est décrit comme finalement la force menaçante, même si c'est vrai que dans la critique de De Gaulle, de la menace du communisme totalitaire, il y a également une critique de la Chine maoïste. Donc c'est pas forcément que dirigé contre l'URSS. Enfin, le fait que finalement De Gaulle arrange relativement bien l'URSS parce qu'il est relativement indépendant des Américains va faire que jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux staliniens ou conspirationnistes, va y avoir l'idée que finalement mai 68 était une sorte de complot de la CIA. Une idée assez étrange. Et c'est là où on voit que dans l'imaginaire politique du côté du pouvoir, ou du côté des contre-révolutionnaires, jusqu'à certains staliniens, du coup, il y a quand même une dimension, un imaginaire très conspirationniste, en fait, en 68, qui tient à la fois de la rhétorique et de la peur réelle, avec toute la dénonciation de l'anarchie, du complot maoïste, et avec toute une confusion un peu au niveau des idéologies, où finalement on mélange tout, une espèce de paranoïa qui va, et ça c'est un aspect très amusant en fait du livre, toute la partie sur la police politique et notamment le fait qu'on va mobiliser quasiment l'armée jusqu'en Creuse pour essayer de trouver Daniel Cohn-Bendit à partir du moment où il est expulsé du territoire. Et d'ailleurs là-dessus on peut rappeler que il y avait ce slogan de manifestation « Nous sommes tous des juifs allemands » qui montrait bien que dans les années 60, au moment de 68, il y a une conscience aussi du problème de l'antisémitisme et une forme d'internationalisme qui est évidemment extrêmement, extrêmement importante dans ces années-là. Et finalement, le discours du pouvoir joue à la fois sur la peur, la paranoïa, la théorie du complot, et d'un autre côté, sur certains aspects, sur l'idée que eux sont plus révolutionnaires finalement que les révolutionnaires. Donc il y a des jeunes qui font des tracts, la révolution avec De Gaulle. Finalement, il y a aussi une espèce de récupération et qu'on va retrouver en fait dans tout le grand récit du pouvoir depuis jusqu'à aujourd'hui. De finalement, mai 68, c'était chouette parce que ça a permis une restructuration, une modernisation de la société française. Enfin, une manière de récupérer l'événement dépolitisant complètement, alors même que, sur le moment, et peut-être que le pouvoir, d'une certaine manière, a surestimé le danger, sur le moment, il y a quand même vraiment une inquiétude que ça peut virer à la révolution, d'où peut-être la dureté de la violence policière, et aussi de l'aspect police politique, c'est-à-dire qu'on va se mettre à ficher beaucoup de gens quand même. Voilà, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces points, peut-être avant de passer à la troisième partie de l'émission?
Mais oui, mais c'est vrai que du coup, ça nous invite à mesurer à nouveau l'ampleur du mouvement. Et du coup, là, non seulement la surprise, mais la grande peur du pouvoir et la grande peur, de manière générale, des possédants aussi. Hein. Enfin, on n'a jamais vu ça. Voilà, tout à coup, le pays tout entier est paralysé par la grève, les occupations, par la prise de parole, par tout ça. Donc évidemment, le pouvoir, il cherche à trouver des, non pas seulement des boucs émissaires, mais des instigateurs. Il dit, c'est pas possible, d'où ça vient. Et c'est vrai que cette manière de se focaliser sur Cohn-Bendit, elle m'a complètement fascinée quand j'ai travaillé sur les archives des préfets notamment. Tous les préfets reçoivent des consignes extrêmement strictes pour traquer Cohn-Bendit. Donc vous avez mentionné cet exemple de la Creuse, où en effet, on envoie des pelotons de gendarmerie pour fouiller un vieux moulin abandonné parce qu'on croit que Cohn-Bendit s'y est réfugié. Et puis surtout, par exemple, c'est encore plus frappant parce que ça nous dit les priorités finalement du pouvoir à un moment, c'est que les patrons de l'Est de la France, notamment du côté de la Lorraine, à un moment, font appel au préfet, au pluriel, aux différents préfets, pour qu'ils envoient des forces de l'ordre pour lever les piquets de grève. Et certains préfets répondent, ah ben non, mais désolé, on n'a plus personne à vous envoyer parce que tout le monde et toutes nos forces sont mobilisées à la frontière ou au cas où l'individu, comme Bendit, tenterait de la franchir à nouveau puisqu'il a été expulsé et interdit d'accès au territoire français, quoi. Et puis bon, finalement, il arrive quand même à, de manière clandestine, à réapparaître et apparaître en plus en plein Paris, en plein quartier latin, en pleine cour de la Sorbonne. Mais c'est vrai que, et là, le pouvoir, hein, enfin, les deux têtes de l'exécutif, hein, Pompidou et De Gaulle, Pompidou lui aussi, il est persuadé que c'est un complot, un Maoïsme, c'est pas trop, enfin, on sait pas, mais voilà. Mais en fait, ils sont récusés par les rapports des RG, en fait, les rapports des renseignements généraux qui disent assez clairement, bah non, il n'y a pas de main manipulatrice comme ça qui viendrait de l'étranger. Mais c'est dingue parce qu'ils en sont amenés même à. C'est Jacques Faucard, hein, donc, qui est un proche conseiller de Gaulle à l'Élysée, hein, qui n'est pas seulement son monsieur Afrique, hein, qui diligente une enquête de la DST, donc des services secrets, sur le patron de Renault, le PDG de Renault, Pierre Dreyfus, parce qu'ils sont persuadés que c'est lui qui rédige les tracts de la CGT, quoi, que c'est un gauchiste qui veut contribuer à renverser le pouvoir et faire partie d'un futur gouvernement, pourquoi pas Mendès France, enfin voilà. Et donc, donc les services eux-mêmes disent que c'est une mission quand même très très délicate, parce que bon, bah, Renault, c'est quand même la vitrine des entreprises nationalisées, etc. Et donc, c'est vraiment très très compliqué. Mais c'est à la fois un peu croustillant, parce que j'essaie de rendre compte de tout ça, de ces rapports-là, de ces enquêtes, et en même temps, c'est très significatif d'un pouvoir aux abois.
Oui, et ce pouvoir aux abois, du coup, il va mobiliser l'idée de voilà, le spectre de la guerre civile, voilà, du rationnement, de l'anarchie, de l'arrivée du communisme totalitaire, pour mobiliser toutes les forces possibles, et inviter les gens à participer de quelque manière que ce soit à la défense, entre guillemets, de la Ve République.
Oui, et vous avez eu raison de mettre en évidence le rôle des CDR. Là aussi, c'est Jacques Faucard, hein, qui les impulse, donc les CDR, les comités de défense de la République, parce que Faucard se dit, bon, le SAC, c'est pas pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes qui vont rejoindre le SAC dont on sait, dont on connaît les méthodes un peu bon, de barbouze, quoi, en gros. Alors que les comités de défense de la République ben, fleurissent un peu partout en France. Il y a des lâchers de tracts, même par avion, des CDR, des affiches, bon, qui visent vraiment, en effet, à. C'est contre insurrectionnel, enfin, très, très clairement. Donc, susciter des mobilisations dans de très nombreuses villes de province, des rassemblements, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la grande manifestation des Champs-Élysées le 30 mai pour le retour à l'ordre moral, social et politique. Mais des manifestations comme ça, il y en a ensuite au début du mois de juin dans différentes villes un peu partout dans le pays, autour des monuments aux morts, etc. Et avec toute la. Aussi une manière de réactiver le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. En gros, c'est ils ne passeront pas. Quoi. C'est un peu, voilà, on a résisté face aux nazis, on résistera face à ces forces, y compris étrangères. Et c'est là que le rôle de Cohn-Bendit est à nouveau remis sur la table. Parce que, voilà, qu'est-ce que c'est que cet anarchiste allemand, comme disait Georges Marchais, mais en plus, la droite et l'extrême droite parlaient clairement d'un juif voilà, qui aurait une influence supposément manipulatrice. Ça. Donc, c'est voilà, les CDR sont extrêmement bien organisés. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui rejoignent ces CDR. Et puis, vous l'avez dit, c'est vrai qu'ils sont prêts à tout, hein, et notamment ça c'est l'UJP, l'Union des Jeunesses Populaires, donc gaulistes, qui n'hésite pas à dire oui, vous voulez faire la révolution, mais oui, la révolution, mais venez faire la révolution avec De Gaulle. Quoi.
Oui, ça c'est intéressant, tout cet aspect de. Finalement, où les affects jouent un rôle très important, on a parlé de la peur, ce sont d'autres affects dont on va parler dans la troisième partie de notre émission, plutôt les affects du coup révolutionnaires, joyeux, par rapport à ces affects plutôt de l'ordre de la peur, de la paranoïa, de l'indignation face à la profanation des symboles nationaux, etc. Donc on va faire une pause musicale avant de passer à la troisième partie de notre émission.
Et c'était mai, et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. Et c'était mai, et l'on s'aimait, et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. On a lancé des pavés sur la gueule des flics. Des fous, des fous, des fous, des fous, des foulés. Ils ont hurlé de peur, on a pleuré de rire. Rigole, rigole bien, qui rira le dernier. Le dernier coup de matraque. On nous grenade, on nous traque dans les rues. Mon camarade, comme on s'est bien éclaté. On a crié, gueulé, beaucoup marché. Et discuté. D'abord c'est dans le dictionnaire ce mot-là. Et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. Et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai, et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. La zizanie anime nos mines et nos usines. Stoppez, 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 stoppez. Mais stop, poulet. Ça dure, c'est l'aventure qui entre dans. Et c'était mai 68, mai 68. C'était mai et l'on s'aimait. C'était mai et l'on s'aimait. Et c'était mai 68, mai 68. Les grèves les plus brèves sont toujours les meilleures. Chantez, 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 déchantez. Remettez ce tigre dans votre mental. C'est toujours mai et l'on s'aimait. C'est encore mai 68, mai 68. C'est encore mai et l'on s'aimait. C'est toujours mai et l'on s'aimait. C'est encore mai 68, toujours mai 68. Encore prenez vos désirs pour des réalités.